Monsieur le Président.
On a dit dans cette émission qu'on faisait pas de langue de bois.
Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas.
J'ai laissé l'appétit de Robert Navarro pour les...
De ce point de vue-là, j'ai manqué mon rendez-vous avec les Français.
Et voilà, le renard est remonté tel le coq face à la pendule, version Claude Nougaro. Monsieur distingue les populaires des populistes, y compris dans leurs discours respectifs. Gare à ceux qui amalgament les deux fronts, ce serait comme confondre le lard et le cochon. L'un est mort, l'autre vivant. Enfin, il suffit d'une seule chose, écoutons-le.
Le coup de pinceau du renard par Jean-François Gibert.
La lecture du programme du Front National est édifiante. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil, sauf l'étranger. Comme dans la Bible ou le Coran, chacun peut choisir ses versets, de l'humaniste de gauche au nationaliste pétainiste. La faucille et le marteau dans le rouge du drapeau tricolore. Dans ce bric-à-brac, certaines mesures socio-économiques, banques, pouvoir d'achat, sont proches de celles du front de gauche, mais elles représentent qu'une petite partie du programme frontiste. La plupart des propositions du Front National sont accompagnées du principe de la préférence nationale ou de mesures sécuritaires. L'un, le Front National, s'inscrit dans une problématique identitaire. L'autre, le Front de Gauche, dans une problématique de classe. Ce n'est pas parce qu'ils trempent leur ligne dans le même étang, celui des couches populaires, par profession de foi ou par opportunisme, que ces dix populistes extrémistes se ressemblent. De fait, tous les opposent. Front contre front, à la façon des combats de Rennes, d'Élan ou d'Original. Créé par Jean-Marie Le Pen le 5 octobre 1972, le Front National voulait incarner la vraie droite, celle de l'ultra-libéralisme, face à la coalition socialo-communiste. Remarquons que quelques mois plus tôt, le 26 juin 1972, était signé le programme commun de gouvernement par le PS, le PC et les radicaux de gauche. Du club de l'horloge à l'heure d'aujourd'hui, toute une question d'habillage, de phare, de trompe-l'œil. Comme disait le président fondateur, mieux vaut l'original.
Bon, parlons peu mais parlons bien, les attitudes tribuniciennes des deux fronts nous feraient confondre le fond et la forme. Hein, quand même, parler au peuple de ces mots, M-A-U-X, n'a rien à voir avec parler à la foule avec des mots, M-O-T-S. À écouter le tout dans le puce 2 de cette proboscopie. Bon, bah, dans nos studios, nous sommes en la compagnie de nos invités et permettons-leur de se confronter le temps d'un opus. Nous sommes en la compagnie de France Jamais, la fille du compagnon de route de Jean-Marie Le Pen et de René Revol, le pote de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont tous deux été formés à l'école tribunicienne, même si aucun des deux n'a fait Sciences Po, l'école où on apprend à parler. Enfin, que demande le peuple? That is the question, là est la question. Mais avant de revenir sur les thèmes que nous avons choisis, parlons encore un petit peu de flacons et de vin. Quelle est la plus belle couleur pour le vin?
Le rouge.
Le rouge.
Non, mais moi, je vous ai dit, je suis pas sectaire. J'étais très rouge pendant très longtemps. Et puis, il y avait une propension à tanniser un maximum les vins qui, finalement, au bout d'un moment, m'a un petit peu ennuyé. Je me suis un petit peu rabattue sur le blanc, parce que je pense qu'il y a d'excellents blancs comme d'excellents rouges. J'apprécie et l'un et l'autre. L'essentiel, c'est qu'ils soient bons.
Méfiez-vous, parce que si vous mélangez les deux, ça va donner du rosé.
Oui, bah, du rosé façon Bruxelles, oui, effectivement, bon. Mais que je condamne, oui. C'est
il n'y a pas du bon vin en Bruxelles.
Bon, on va arrêter de résiner, on va raisonner un instant, on va jouer avec les mots M-A-U-X des Français, et avec les mots M-O-T-S dignes du Café du Commerce. Mais est-ce que tout ça n'a pas pour conséquence de déstabiliser la République? Parce qu'à force de surenchérir, on pourrait imaginer que les fronts, qu'ils soient national ou de gauche, déstabilisent la République. Alors si vous voulez bien, on va
et
prendre...
Alors
ah, alors est-ce que c'est le but du jeu?
Mais non, mais c'est pas le but du jeu, mais je veux dire avoir une voix que vous jugez discordante par rapport à celle du système qui est en place depuis 40 ans, ça fait partie, je crois, ça procède du jeu démocratique.
Ah oui, nous on n'est pas discordant, on est divergent ici.
Ce qui déstabilise aujourd'hui la République... C'est le règne de l'argent. La République, elle est fondée, comme son nom l'indique, Respublica, sur l'intérêt général, sur le bien commun, qui fait que les citoyens sont amenés à se prononcer pour réaliser ce bien commun. Or, aujourd'hui, on est dans le règne de la finance, qui impose sa loi à tous, y compris aux dirigeants des grands États. Donc, ce qui déstabilise...
On croirait Hollande ou Bourget.
Oui, exactement. Ce qui déstabilise la République, c'est effectivement le fait que l'intérêt général est bafoué par l'intérêt particulier de quelques puissants financiers.
Mais c'est pas récent.
C'est pas récent.
Ça existe depuis le début, au moins depuis le début de la Révolution industrielle, sinon depuis la Renaissance.
Ce qui est récent, c'est qu'ils ont pris la main sur les institutions politiques et qu'aujourd'hui, comme ils ont pris la main par l'intermédiaire d'institutions non élues, qui sont... la Commission de Bruxelles, le FMI, l'ensemble, la Banque Centrale Européenne, et qui dictent leurs lois au peuple, et qui dictent leurs lois au gouvernement. Ça, c'est récent. Et comme ça se met en place, il s'agit de défendre, de ce point de vue, la République. Donc, ce point de vue, j'ai une divergence majeure avec Mme Jamais et le Front National. C'est que pour elle, le fondement de la République, c'est la nation, alors que pour moi, le fondement de la nation, c'est la République. Ça signifie que la République a un message universel qui s'adresse à tous les humains, et que la France accueille les humains qui rejoignent les valeurs universelles de la République.
C'est pas un peu Troisième République, ça ?
Et alors ?
Cette vocation universelle de la France.
Est-ce que c'est
pas possible d'entendre.
Est-ce que c'est encore plus grave ?
On peut pas continuer de dire que la France peut. La France, vous appelez la France est d'une générosité, mais alors sans borne à l'égard de tous les humains de la Terre. Non. Moi, je veux dire, l'essentiel de notre programme, effectivement, repose sur la priorité aux Français. Nous n'avons plus les moyens de la générosité que vous êtes en train de dilapider.
Remettre en cause le système, c'est ce que disait M. Revol.
Mais M. Revol ne remet pas en cause le système, parce que ça fait 20 ans qu'ils l'ont mis en place.
Oui, mais ça veut dire quoi quand Michel Rocard dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ?
Sans vouloir remettre en question la dictature de l'euro, de la BCE, etc., et de cette fameuse finance dont nous parlions tout à l'heure, commence par la condamnation de l'internationalisation et de la mondialisation de la finance, des capitaux, des humains, des cerveaux, etc. On ne peut pas se défendre utilement si on n'instaure pas des frontières et si on ne défend pas prioritairement ses propres concitoyens, ses compatriotes.
Ça voulait remettre des murs, quoi.
Mais là, actuellement,
c'est facile de dire ça.
Partons
on ne va pas construire le mur
si on peut débattre. Partons de votre point de vue. Consiste à défendre nos propres concitoyens. Donc moi, partons de ce point de vue. 5 minutes. Pour défendre nos propres concitoyens, vous ne pouvez pas y arriver sans faire une nouvelle répartition des richesses qui soit différente. Et cette nouvelle répartition des richesses suppose de s'attaquer aux puissants et de ne pas laisser les pleins pouvoirs au patronat. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez deux députés ou un député et demi, je ne sais pas exactement. Donc vous avez deux députés. Je regarde avec précision les projets de loi qu'ils défendent, les positions qu'ils prennent, et j'ai lu tous les amendements que Mme Maréchal Le Pen a présentés à l'occasion du débat sur l'ANI. Ben, ils sont tous favorables au patronat. Donc il y a une véritable aujourd'hui position à prendre, et vous n'allez pas pouvoir défendre longtemps que le Front National défend les salariés et les syndicalistes.
Le Front National et les deux députés qui font parfaitement bien leur travail, en tout cas qui assument totalement leur responsabilité politique, se battent systématiquement et sont les seuls justement contre l'essentiel des mots justement qui s'acharnent contre notre nation. L'immigration, l'insécurité, l'Europe, l'euro, Schengen, le traité de Lisbonne, tout ça procède du mal-être de notre pays et nous sommes les seuls à défendre et aller contre ces utopies que vous nous avez imposées et que vous ne voulez pas remettre en question.
Le mal, c'est pas l'étranger, le mal, c'est le financier aujourd'hui, vous le savez.
Oui, mais monsieur, mais c'est vous qui l'avez mis en place et vous ne le dénoncez pas. Et vous ne le dénoncez pas, acceptez-le.
Vous transférez l'hostilité des gens du système sur les étrangers, ça sert de bouc émissaire.
Non, quand on parle de priorité nationale et quand on dit qu'il faut prendre en considération les intérêts, l'intérêt général de nos compatriotes, ça n'est pas
ce que disait Georges Marchais dans les années
70.
Ça n'est
pas du rejet, ça veut dire que nous devons quand même nous préoccuper essentiellement des Françaises et des Français. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant.
Mais ce que disait Georges Marchais dans les années 70.
Ce qui est de choquant, oui, mais que certains autres.
Achetons français.
Les travailleurs français d'abord. Non.
Produisons en français.
Prenons un exemple concret.
Eh bien, produire français commence par défendre les entreprises et les ouvriers, etc. Et défendre aujourd'hui les entreprises et les ouvriers, c'est de remettre en question les accords de Schengen qui ont dérégulé, qui ont effacé nos frontières. Nous ne pouvons pas nous défendre utilement si, par un protectionnisme intelligent ou par une surveillance de nos frontières, ce qui nous est totalement interdit, qui va demain remettre gravement en question les problèmes qui vont arriver avec l'arrivée de populations roumaines ou bulgares, qui posent de grands problèmes de sécurité et humains aussi,
mais
que nous ne
demain.
Pouvons pas prendre totalement en charge. On ne peut pas dire. Et
Le Front National a un côté quasiment religieux.
On va les soigner gratuitement, on va leur donner l'école gratuite, etc.
C'est l'européen.
Mais il faut que j'aille au bout de mon raisonnement. Quand nous avons plus de 5 millions.
Prenons le logement.
Nous avons 5 millions
de
chômeurs, 11 millions de pauvres. Nous avons 14-17 millions de mal logés. Et nous sommes en train de nous préoccuper la situation de clandestins qui arrivent en France. Nous sommes en train de mettre en place l'aide médicale d'État aux étrangers qui rentrent clandestinement en France, alors que nos grands-parents, nos parents, de plus en plus de Français voient leur retraite amputée, les allocations coupées et n'ont pas de logement.
Voilà. Juste un point.
J'étais à l'heure, j'ai pris un peu d'avance, c'est normal.
D'accord. Donc moi, je voudrais les choses simples. Prenons le système de l'aide médicale. Jusqu'à nouvel ordre, les microbes ne font pas de distinction de la nationalité des gens. Et donc, si vous voulez protéger...
Surtout quand les épidémies viennent de l'étranger.
C'est le danger de la mondialisation.
Donc la question qui se trouve posée...
Ils amènent même des maladies.
Si vous ne pouvez pas assurer une protection médicale pour les étrangers qui rentrent sur notre territoire, qui soit minimum, vous mettez en danger vos concitoyens nationaux. Voilà. Donc ça, c'est une évidence que tous les médecins, y compris des médecins qui sont proches de vos idées, l'Europe...
On ne parle pas de maladie.
Attendez, je termine, pour que je puisse dire deux mots. Deuxièmement, prenez le logement. Il y a combien de personnes sur les listes d'attente pour les logements sociaux dans l'Hérault? Il y en a plus de 40 000. Il y en a combien dans l'agglomération de Montpellier? Il y en a 17 000. Sur ces 40 000 et sur 17 000, il y a combien d'étrangers? Autour de 4 à 5 %. Donc, imaginons qu'on accepte votre point de vue qui consiste à ne pas loger des gens parce qu'ils sont d'origine étrangère. Eh bien, il n'en resterait pas moins qu'aujourd'hui, comme on produit à peine 15% de logements qui répondent à cette demande, eh bien, on laisserait nos compatriotes dans le besoin. Donc, si vous voulez assurer le droit au logement pour tous, il ne suffit pas de dire « je vais exclure les étrangers ». Il faut vous attaquer aux puissances financières qui contrôlent le foncier, qui contrôlent l'immobilier, qui contrôlent tout ça. Et donc, il faut une loi sur le logement qui permette aujourd'hui de loger ces populations, car il y a une réalité à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Le revenu moyen des habitants en France depuis 20 ans a augmenté de 20%. Depuis 20 ans, le prix d'un loyer, le prix d'un achat d'immobilier, lui, il a augmenté de 113 à 150% selon les hypothèses. Donc, dans cette situation, il y a une vraie mainmise des puissances de l'argent sur le secteur immobilier qui crée un vrai problème de mal-logement. Et c'est mentir aux gens que de dire que leur problème de mal-logement sera réglé parce qu'on aura exclu quelques centaines d'étrangers.
Non, c'est pas vrai.
Non,
monsieur, c'est vous qui mentez, monsieur.
C'est la même chose au niveau du travail.
Aussi brutal, je vais vous répondre point par point. Concernant les maladies, je vois que vous faites beaucoup d'humour là-dessus. Je vous rappelle, c'est du mauvais esprit que les Espagnols ont en grande partie contribué à décimer les populations d'Amérique du Sud avec le fameux virus, je crois, de la grippe ou de la variole. Donc, je veux dire, ça n'est pas ostracisé. Une grande partie de la population du Pacifique a été effectivement contaminée, notamment l'Australie, qui a imprimé ce climat. Vous parlez de maladies et d'épidémies, l'épidémie peut s'entendre, mais je vous parle de la prise en charge intégrale des frais hospitaliers et d'une espèce d'immigration justement médicale qui est organisée. Vous me parlez de logement, je suis obligée de vous répondre en vrai. Mais monsieur, le droit au logement pour tous commence effectivement par le droit au logement pour les Français. Actuellement, un préfet, chaque Rome qui est délogé dégager de son, d'un camp qui se retrouve à avoir squatté, comme on l'a vu à Lyon, et avec le drame humain qui s'ensuit. À partir du moment où vous les expulsez, vous leur devez 75 euros par jour et par personne. Mais c'est même pas ce qu'on donne à un Français qui travaille à mi-temps, à tiers-temps, ou qui est au chômage ou au RSA, etc., pour essayer de se loger et de dormir ailleurs que dans sa voiture. Je connais, monsieur, des gens comme ça. Et vous êtes en train de nous expliquer que tout ça doit se faire au nom des grands sentiments que vous avez décidé de déferler sur toute la misère. Mais non, mais nous ne pouvons pas. Et le prix des loyers, monsieur, le mensonge consiste... Non, j'ai cru qu'il y avait un petit peu de... Le mensonge consiste justement à parler du prix des loyers et de... Effectivement, nous, dans notre région, nous avons un problème de spéculation foncière, mais qui a été organisé d'ailleurs par l'Union européenne, qui a décidé de faire, notamment de notre région, une zone de tourisme et de retraite pour riches. Ça, c'est sûr. Mais le prix des loyers est de plus en plus hors de prix dans la mesure où il n'y a plus de travail, où il n'y a plus de pouvoir d'achat. Donc il faut déjà commencer par parler de ça, le vrai problème. Si les gens n'ont plus d'argent pour se payer un loyer, c'est qu'ils n'ont plus d'argent du tout, c'est qu'il n'y a plus d'entreprise, c'est qu'il n'y a plus de travail, c'est que l'Europe a tué notre économie, nos industries, nos commerces, nos artisans, etc.
S'il n'y a plus d'entreprise, c'est-à-dire phénomène de désindustrialisation, comment est-ce que vous allez faire si vous mettez des frontières... imperméable par rapport à la consommation.
Ça, ce n'était pas des frontières imperméables, nous l'avions défendu pendant les présidentielles. C'est très bien que si on quitte l'euro,
le franc va valoir 40% moins
cher. Non.
Moins cher.
Même monsieur Sapir, économiste reconnu, est en train de nous rejoindre là-dessus. En 4 à 6 ans, un économiste qui n'est pas de votre avis. En 4 à 6 ans, nous pourrions même justement redresser la barre.
4 à 6 ans, mais vous rendez compte, ça va être une catastrophe.
On ne parle pas d'un mur imperméable. On n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine. On ne parle pas d'un mur imperméable. On parle de protection. Mais non, pas d'austérité. L'austérité, elle est là, monsieur. Et elle ne va pas aller en s'arrangeant.
Mais si on passe au franc, on verse 20
milliards. On verse 20 milliards par an.
On perd combien ? 30%.
On verse 20 milliards par an à l'Union européenne. Elle nous en restitue 13. Elle en garde 7 pour son fonctionnement.
C'est normal, elles nous ont partagé les pays riches.
Il y a 20 milliards de fraudes sociales, justement, avec les clandestins, etc., qui sont dépensés chaque année au détriment des contribuables et des Français. L'immigration, alors là, c'est un chiffre qui va vous faire plaisir, nous coûte 70 milliards par an. La dette, justement, vous défend... Oui. La dette, nous payons 50 milliards d'intérêts par an sur notre dette. Nous avons déjà payé plus de 1 500 milliards d'intérêts. Nous n'avons pas encore attaqué le capital. Et tout ça sur l'autel de l'euro, de l'Union européenne et de Bruxelles. Nous sommes les seuls...
Il faut
bien qu'il y ait une cause.
Ah oui, non, mais dans les années 30, c'était le juif, puis ce fut le métèque, et maintenant c'est l'européen.
Ça suffit, ça.
Et maintenant c'est l'européen.
C'est un scandaleux procès que vous faites qui n'a jamais été acté et que nous ne partageons pas et que nous n'avons jamais défendu.
Mais pourquoi chercher un bouc émissaire toujours?
Mais non, mais parce que je suis en train de vous... Mais non, monsieur.
C'est le discours sur la plutocratie.
Ça n'est pas un bouc émissaire, je suis en train de vous expliquer que les responsables sont politiques et ce sont les politiques qui, depuis 20, 30 ou 40 ans, avec monsieur Mélenchon, monsieur Hollande, monsieur Sarkozy, monsieur Chirac, etc., ont contribué à nous amener à la situation où nous en sommes. Ce sont eux les responsables. Mais s'il y a une cause, effectivement, c'est ces ouvertures aux frontières qui permettent à n'importe qui d'arriver, d'être pris en charge intégralement, au détriment de nos compatriotes. C'est une première chose. Quand vous parlez de protectionnisme, d'imperméabilité, etc., c'est un protectionnisme raisonné. L'imperméabilité est ce qui est sans concession et qui ne se discute d'aucune façon, c'est le protectionnisme sans concession de la Chine ou celle des USA. Parlons-en.
Alors,
vous ne rentrez pas sur le marché chinois comme ça.
On va donner la parole quand même à René Revol.
Quand même, oui.
Même s'il est arrivé en retard. C'est pas une raison quand même pour pas qu'il ait la parole. René.
À la proportionnelle.
Premièrement, concernant le libre-échange et le protectionnisme. Il n'y a pas que du côté de la droite et du Front National qu'il y a des gens qui sont partisans de revenir à un certain protectionnisme ciblé. À gauche, on est très nombreux depuis de nombreuses années à le défendre. Moi qui ai voté non à Maastricht en 1992 et non en 2005 au référendum.
Pas tout à fait comme Mélenchon alors.
Mais chacun, attendez, vous permettez, je termine mon raisonnement.
Il a voté pour. Ouais.
Oui, mais il fait ce qu'il veut. Ouais, mais comme vous, vous avez, si je reprends toutes les citations de votre parti depuis 72, vous seriez même rouge de honte. Donc, on ne va pas, revenir sur ce débat. Donc, prenons les choses calmement par rapport aux problèmes posés. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le débat sur le fond. Le reste, je m'en fous. Bah, vous permettez que je termine ou on ne peut pas discuter avec vous, ce n'est pas possible. Donc, je vous dis que personnellement, depuis très longues années, j'appartiens à un courant politique qui dénonce le libre-échange généralisé. Et aujourd'hui, en tant que membre du Bureau national du Parti de gauche, nous faisons une proposition précise. Il y a une loi qui est en train de passer aujourd'hui en France, un système, c'est le grand marché transatlantique. Donc je suis fondamentalement opposé à ça. Nous sommes les premiers à l'avoir dit il y a 15 ans quand la négociation a commencé. Et nous disons aujourd'hui qu'il faut que le peuple s'exprime sur cette question, qu'il y ait un référendum, qu'il y ait quelque chose, que nous ne rentrions pas dans le grand système libre-échangiste nord-américain. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. On peut parfaitement, monsieur Sapir, d'autres, être de gauche aujourd'hui et défendre l'idée d'un protectionnisme ciblé avec des véritables visas sur les marchandises, visas sociaux et environnementaux, visas sociaux lorsque il y a exploitation de la main-d'œuvre, notamment des prisonniers, des enfants, etc., ou des bas salaires comme au Bangladesh, qui fait qu'on ne fait pas rentrer ces marchandises, et deuxièmement, visas environnementaux lorsque ces productions se font au détriment finalement de l'environnement et de la planète. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que vous parlez de la dette, mais vous avez le même discours que les dirigeants. On a une dette, on a un intérêt, 1500 milliards d'intérêts. Mais d'où viennent ces intérêts? Mais les intérêts ne viennent pas des... Oui, mais vous ne l'ayez pas signé, ça ne vous empêche pas de raisonner pour savoir d'où ça vient. Donc, d'où viennent ces 1500 milliards d'intérêts sur la dette? Ils viennent tout simplement du fait que les taux d'intérêt qui ont été pratiqués auprès des États ont été pratiqués parce qu'on a renoncé au financement de la dette des États par les banques centrales.
Depuis 73.
Et que donc, je suis radicalement... Et donc, il ne s'agit pas de complexer les gens en disant qu'il y a des intérêts. Non, le problème, ces intérêts sont indus parce qu'ils ont été pris par le système financier et par ceux qui dirigent le système financier. Ils ont été un des moyens de mettre l'État sous la pression des marchés financiers. Il faut donc se dégager de ce système, rompre avec la dépendance de l'État par rapport aux marchés financiers et le mettre dans la main des banques centrales qui doivent maîtriser de ce point de vue la création monétaire et retrouverait la souveraineté républicaine sur la création monétaire telle qu'elle existait, telle qu'elle a été défendue d'ailleurs autrefois par des gens de droite et de gauche parce que c'est une des conditions de la souveraineté populaire.
Alors, on voit que tu as lu le dernier bouquin de Marine Le Pen et puis que Mme Jamais n'a pas lu le dernier bouquin de Marine Le Pen.
Est-ce que ça veut dire que par rapport à la Banque Centrale Européenne, vous êtes d'accord sur le fait que cette Banque Centrale prête directement aux États et pas aux banques privées?
Moi, je suis pour.
Évidemment, non, mais attendez, mais il faut être cohérent.
Non, mais attendez, vous êtes d'accord avec ça aussi?
Oui, attendez. Il est évident que la Banque Centrale Européenne prête à des taux, mais dérisoires aux banques, et que nous, par contre, nous avons des taux d'intérêt qui sont prohibitifs pour rembourser des dettes ou des intérêts de la dette sur d'autres pays européens.
Les États financent les bénéfices des banques.
Il faut quand même être cohérent et remettre les choses à leur place. Je suis désolé, mais quand en 2005, les Français ont dit non au traité de Lisbonne qui leur a été imposé. En 2008, l'Assemblée nationale PS et UMP unanimes ont imposé ce traité que les Français avaient refusé. Vous parliez tout à l'heure de référendum révocatoire. Moi, je vous fais simplement remarquer, je vous parlais de démocratie, que l'Assemblée parlementaire s'est assise sur la volonté du peuple et qu'il se trouve justement que M. Mélenchon s'est assis sur la volonté du peuple.
Vous avez 30 secondes parce qu'après, on...
Juste une chose, il faut quand même aussi être cohérent, même si on dit qu'on fait semblant d'être d'accord. Mais à ce moment-là, je vous entends parfaitement. Nous avons dénoncé effectivement ces accords qui nous ont privés en 1973 de la maîtrise, en tout cas, sur nos finances et sur notre monnaie. C'est pour ça que si on veut être cohérent, il faut se réapproprier notre souveraineté sur la monnaie. Il faut revenir au franc, parce que tant que c'est l'Europe qui nous dictera la rigueur, l'austérité, les mécanismes européens, les taux d'intérêt, ce que nous devons rembourser, ce que nous devons payer, etc., nous ne nous en sortiront pas. Donc il faut être cohérent. Alors il ne faut pas dire qu'on est d'accord sur tout, puisque justement, la solution, elle est dans la réappropriation de notre souveraineté et de la maîtrise, vous venez de le dire, de notre monnaie, et ça commence effectivement par une réappropriation de la monnaie au détriment de l'euro.
Juste avant,
sur le franc et l'euro, si vous permettez cette question sur le franc et l'euro. Bon, si là, il y a une crise généralisée de l'euro, il faudra bien trouver une solution. Dans l'immédiat, l'article 75 du traité concernant la Banque centrale donne le pouvoir à la Banque centrale nationale d'un pays, en situation exceptionnelle, de pouvoir reprendre directement la possibilité d'émettre des crédits. Donc aujourd'hui, sans attendre disons, un repassage au franc qui serait coûteux et lointain, nous pouvons d'ores et déjà désobéir finalement à la Commission européenne. Et il ne s'agit pas de simplement dire qu'il faut attendre qu'on soit repassé au franc. Dans l'immédiat, le gouvernement actuel peut tout de suite dire qu'il y a une situation exceptionnelle, comme il pourrait le dire en Espagne, comme il pourrait le dire en Grèce, comme il pourrait le dire dans tous les pays, Portugal, qui sont frappés aujourd'hui par l'austérité. On peut trouver une autre solution. Et avec notre banque centrale qui a le droit d'émettre des euros et des crédits en euros, eh bien, nous pouvons reprendre le pouvoir sur la finance.
Want to sign check, it's okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.